Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, je vous propose d'assister aujourd'hui encore, à Gruyère, à un atelier Renaissance. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Beaucoup de ceux qui, avant nous, ont écrit sur la danse, lui ont consacré la plus grande partie de leur œuvre écrite. Ils en ont énuméré toutes les formes et ont précisé pour chacune son nom, en quoi elle consiste et par qui elle a été inventée. Ils ont peut-être étalé leur science, mais quel singulier manque de goût que de mettre son point d'honneur à savoir de telles choses. C'est l'affaire de demi-savants, non la mienne. Passons. De mon côté, je n'ai pas l'intention de remonter aux origines de la danse, ni d'en énumérer les différentes sortes, non. L'objet de mon propos est de faire l'éloge de la danse telle qu'elle existe aujourd'hui. Je veux montrer ce qu'elle contient d'utile et d'agréable. C'est surtout à partir d'Auguste, et non dès ses débuts, qu'elle a connu ses plus beaux développements. Au commencement, n'existaient que les racines et les fondements de la danse. Aujourd'hui, nous en avons la fleur et le fruit, et c'est de ce dernier, porté à une perfection jamais atteinte encore, que je vais parler, laissant de côté la danse à entrechats, celle qui imite la grue, et toute autre sorte de danse sans rapport avec celle d'aujourd'hui. Quant à la danse dite phrygienne, elle ne convient guère qu'à des convives pris de boisson, à de grossiers personnages qu'une femme fait laborieusement sauter et danser en jouant de la flûte. On la danse encore dans les campagnes, mais elle n'a rien de commun avec la danse d'aujourd'hui. Du reste, dans ses lois, Platon fait l'éloge de certaines danses et en repousse d'autres comme indignes. Fondant sa distinction sur l'utile et l'agréable, il rejette les plus indécentes, réservant aux autres son estime et son admiration. En voilà assez sur la danse elle-même. Il serait déplacé de vouloir tout dire. Quelles qualités sont nécessaires au danseur? Comment il doit s'entraîner? Et ce qu'il doit savoir pour maîtriser son art? Voilà ce que je vais t'expliquer.
Toujours les préceptes de Lucien de Samosate pour inaugurer cette nouvelle émission. David Mestri, bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Où il est question de Renaissance, d'un côté de danse et de l'autre d'art de la lutherie. C'était en tout cas ce qui s'est passé dans ces journées gruyériennes. Cet atelier de musique ancienne, cinquième du nom, tel qu'il a eu lieu à Gruyère, c'était du 26 août au 2 septembre passé. Et vous y étiez, David Mestri, pour nous.
Voilà, sous l'égide de Philippe Moterio, qui est le luthier inventeur de ce festival tout à fait original.
Lui qui est président de l'association Guitare et Lutte.
Et ces musiciens qui l'invitent cette année sont notamment des danseurs, la compagnie Outre Mesure, qui nous apprenait à danser à la manière de la Renaissance, le branle, le tourdion, la gaillarde et autres pavanes. Mmh. Et parmi cet ensemble, on a déjà entendu Miguel Henry, qui est le guitariste et qui donne aussi des cours donc, qui sont assez complets, pas seulement des pas à danser, mais aussi des cours musicaux pour les instrumentistes qui s'apprennent à jouer selon l'art ménétrier et quelques contrepoints improvisés, ce qui aurait plu à notre invité de la semaine dernière qui en est un spécialiste, Jean-Yves Aymaud.
Oui.
Contrepoints improvisés pour apprendre à chanter ses chansons à danser.
Voilà, donc prenez une chaise, installez-vous. Ce qu'on va travailler au maximum, c'est l'improvisation à deux voix. Parce que c'est largement suffisant pour la musique à danser. Et ça suffit en plus pour une pratique qui est très courante, qui est de jouer un dessus et un accompagnateur polyphonique, clavecin, luth ou ce qu'on veut. Voilà, donc c'est. Et ça suffit souvent pour les oreilles, de toute façon. Donc au cours du XVIe siècle, on est arrivé à une improvisation sur une basse qui est donnée et sur laquelle on fait des variations. Donc ça, c'est sans doute venu essentiellement de l'importance du luth au XVIe siècle et de la pratique de ces musiques de danse au luth, c'est-à-dire que tous les luthistes, compositeurs, ont écrit des variations sur des basses importantes. Et donc, à force d'écrire toutes ces variations, on a pris l'habitude de faire vraiment de l'improvisation sur ces basses. Donc ici, je vous ai donné le passe mezzo antico. Donc on a une basse standard Donc sol, 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 fa, 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 sol, 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 ré, ré. Sol, 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 fa, 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 sol, ré, sol, sol. Voilà, ça c'est une basse qui est courante, qu'on va répéter un certain nombre de temps, et une basse sur laquelle on peut danser. C'est-à-dire qu'on peut faire une pavane ou un passe-mèze, qui serait un passe-mèze, ça serait une pavane découpée en fait. Donc dont on changerait un petit peu le tempo de la pavane. Bien sûr, même pour les danseurs, quand la musique est bien et intéressante, c'est toujours mieux. Donc par exemple, ici, ils ont écrit, ceux qui ont édité ce livre d'improvisation, ils ont noté une mélodie, qui est une des mélodies possibles, qui n'est pas du tout la mélodie du passe-mèze, parce que ça n'existe pas, la mélodie du passe-mèze. Il y en a autant qu'il y a de partitions, en fait, et autant qu'il y avait d'instrumentistes, on peut imaginer, à l'époque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette feuille. Voilà, parce que sinon, on va être tenté de regarder. Donc, je vais demander à tous les hommes, pour l'instant, vous aurez le rôle de chanter la basse. Et ce qu'il faut trouver, c'est les intervalles qui vont permettre de chanter avec cette basse. Donc, on est au XVIe siècle, les intervalles autorisés, c'est en priorité l'unisson, la tierce et la quinte, avec ce qu'on a au-dessus. Même la sixte peut être une dissonance, c'est-à-dire, c'est pas que ça crève les oreilles. J'emploie le terme dissonance dans le sens où on sentira qu'on doit redescendre vers la quinte, qu'il y a une résolution attendue. Voilà, c'est le sens que je donne à dissonance aujourd'hui. Comme il y a pas mal de musiciens assez aguerris quand même, je vais tout de suite proposer une mélodie de Superius en fait. C'est-à-dire qu'on a la basse donc qui fait... Chantons déjà tous la basse, on va savoir qui s'en souvient, et puis moi je continue de la chanter, on essaye de se raccrocher, après... Donc je vous la refais une fois tout seul. Sol, 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 fa, 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 sol, 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 ré, ré. Sol, 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 fa, 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 sol, ré, sol, sol. Voilà. C'est bon? Donc vous avez compris, il y a un ouvert et un clos, comme on dit. Hein? C'est ouvert à la moitié, et puis c'est vraiment fermé à la fin. Donc, 3, 4.
Sol, 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 fa, 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 sol, 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 ré, ré. Sol, 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 fa, 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 sol, ré, sol, sol.
Est-ce que quelqu'un veut se lancer à faire un Superius? C'est-à-dire à faire une voix qui soit plus aiguë, qui partira sur la même note. On partira sur la même note sol et on arrive à la fin sur la même note sol. Et il faut essayer de faire une seconde voix. Donc on a le droit de se tromper en impro. Hein, c'est... D'une manière générale, on se trompe pour commencer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise une basse, ça va. Mais quand on commence à improviser, de toute façon, on se trompe. Je dirais que ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, ce qu'on apprend à faire en improvisation, c'est à réagir à la milliseconde près pour changer la donne, pour que ça paraisse autre chose que de s'être trompé, en fait. C'est ça. Hein. Et ça, tous les improvisateurs connaissent ça dans le monde. Parce qu'il arrive toujours un imprévu, sans parler des moments où tout le monde improvise en même temps et où forcément, là, il y a des imprévus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Donc sans diminuer, trouver les consonances et réajuster, et puis en diminuant, de réajuster aussi, bien sûr. Donc il faut essayer juste d'empiler une tierce ou une quinte ou quelque chose, voilà. Qui veut se lancer? Attention. 3, 4. La 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 Ok. Au XVIe siècle, on n'apprenait pas un instrument. On apprenait à chanter. Après, on apprenait des instruments. Mais c'était toujours le chant en premier. C'est-à-dire que c'était l'enseignement de base. Et toutes les questions d'intervalle et tout ça dont je vous ai parlé, c'est des choses qui se faisaient à la voix, de toute façon. C'est ce qui était créé pour ça. Voilà. Alors évidemment, la danse a beaucoup bouleversé tout ça parce qu'on avait tellement besoin des instruments, notamment des instruments qui sonnent fort. Et puis surtout, jouer longtemps, tout ça, bon, énergie, d'un point de vue de l'énergie, c'était quand même plus simple d'avoir des instruments. Donc, on a eu une autre pratique. Mais c'est au XVIe siècle que la pratique instrumentale nous parvient vraiment en tant que telle et qu'elle devient, elle peut devenir une formation de base dans le courant du XVIe siècle. Alors on va refaire comme ça en chantant. Alors les repères des consonances, c'est sur les accords principaux. Alors quand on est sur une basse comme ça, c'est une basse simple où il y a des notes longues, donc c'est assez facile d'avoir des piliers. Mais quand on a une musique qui est écrite en partition où la basse change tout le temps ici, eh bien ce qu'il faut réussir à trouver, c'est ces piliers où ils sont. Et avoir des consonances à ces moments-là, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille dans ce genre-là. On refait ça encore, puis après on continuera.
Miguel Henry, cet art d'improviser, de diminuer que vous avez essayé de nous montrer par la théorie là, des danseurs et des musiciens anciens, est-ce qu'ils en étaient conscients? Est-ce qu'ils connaissaient eux-mêmes la théorie ou bien c'était une improvisation sur laquelle on a étudié une théorie par la suite? Est-ce qu'ils étaient seulement des praticiens ou est-ce qu'ils étaient aussi au courant de l'écriture et de la théorie?
Alors en fait, ça dépend tout simplement de la formation des musiciens. Parce qu'il y a plusieurs voies d'apprentissage au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a la formation dans les chapelles, plutôt religieuses, qui propose une culture savante qui passe par la lecture, où les théories existent. Après, lesquelles sont connues par quels musiciens, ça évolue au cours du siècle, mais aussi selon les lieux. En Italie, en France, il y a des traités qui sont plus ou moins utilisés. Donc, tout dépend du lieu où on apprend. À part ça, il y avait bien d'autres musiciens qui ne passaient pas par cette culture savante, qui, en fonction du fonctionnement des corporations, qui étaient évidemment très, très vivaces au XVIe siècle, en France, en tout cas, je parle surtout pour la France à ce sujet-là parce que je ne connais pas tout ce qui se passait dans l'Europe. Mais il y avait d'autres voies d'accès qui étaient le système des corporations et donc qui fonctionne selon le principe du maître à élève. Donc une transmission orale telle qu'on peut encore en rencontrer aujourd'hui dans beaucoup de pays ailleurs qu'en Europe, un peu en Europe aussi. Mais donc cette manière d'enseigner qui se faisait essentiellement par l'imitation d'une tradition qui est apparue sur un nombre d'années important souvent, mais voilà, donc selon ce principe-là. Donc les deux existaient de toute façon, ça c'est...
Est-ce que c'est différent suivant l'instrument qu'on joue? Par exemple, vous qui jouez la guitare là, pour nous faire danser, est-ce que les guitaristes étaient plutôt des gens moins cultivés que les luthistes ou est-ce que c'est un instrument plus populaire?
Alors ce qui est certain, c'est que de toute façon, Il y a deux solutions au XVIe siècle pour avoir un instrument. Soit on se le fabrique soi-même, soit on achète un instrument, et à ce compte-là, il faut avoir l'argent. Donc, d'une manière générale, nous, les traces que l'on a, parce que la culture est essentiellement aux mains des gens qui ont de l'argent au XVIe siècle, on a essentiellement les traces des gens qui avaient de l'argent. Donc moi, je sais, par des lectures, que beaucoup d'étudiants ou de gens de la haute bourgeoisie ou des nobles jouaient le luth ou la guitare. Voilà, donc on sait qu'ils apprenaient la musique aussi à travers des partitions très souvent imprimées, même s'il y avait beaucoup de manuscrits qui circulaient aussi. Donc par la lecture, en fait. Mais dire que c'est valable pour tous les musiciens du XVIe siècle, c'est peut-être s'avancer beaucoup. En fait, ça demande des études sociologiques qui relèvent de l'historien, en fait. Et un musicien ne peut pas aller si loin, malheureusement. Mais donc, nous, les traces sur lesquelles on se base essentiellement, donc les traités, les tablatures pour la musique, donc écrite pour le luth et la guitare, ça s'appelle des tablatures, ou les partitions en notes, eh bien, nous, on a ce qui est ressorti d'une culture des gens les plus fortunés, de toute façon. Voilà. Donc on ne peut pas parler pour tout ce qu'il y avait au XVIe siècle. On ne peut parler que pour ce qui nous est parvenu, de toute façon.
Est-ce qu'on voit comme étant des musiques d'inspiration populaire? Quand on lit Branle de Poitou, on pense bien sûr plutôt à la campagne, mais en fait c'était des danses de cour et c'était tout le monde le dansait, donc dans toutes les échelles de la société.
Alors il y a une chose qui est assez simple, c'est que ces questions-là, de tout temps, ont été des questions politiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des festivités, je ne sais plus, portées par quel roi, mais c'est Marguerite de Valois qui rapporte ça. Donc, des festivités où il nous est expliqué que des danseurs de toutes les régions françaises viennent danser leurs danses. Donc le Triori de Bretagne, le Branle de Poitou, etc., etc. Mais ça a une vocation politique très importante de dire ça. C'est tout simplement que la France réunit ses régions.
Donc, c'est pas encore aussi évident, voilà, évidemment, au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Voilà.
Alors après, qui ils ont fait venir? C'était de toute façon des nobles. À la cour, c'est des nobles. Mais on a quelques petites traces comme quoi des nobles, parfois, moi j'ai lu un texte comme ça, des nobles qui sont allés danser dans un village qui était près de là où ils étaient. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés danser? Est-ce que c'était leur danse? Je crois qu'à part de faire vraiment une étude très très complexe sur le sujet, déjà qu'aujourd'hui, c'est parfois difficile de savoir, par exemple dans des régions françaises, quelles étaient les danses d'il y a 50 ans ou un siècle. Donc imaginez pour le XVIe siècle. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans tous les peuples, en général, il y a une pratique de la danse. Après, savoir laquelle c'était et à quelle distance elle est de celle qui nous est transmise par les traités, c'est sans doute très difficile de savoir. Politiquement, quelqu'un de riche, peut avoir un intérêt à un moment de danser comme un pauvre, ou alors peut avoir un intérêt à un moment de danser autrement qu'un pauvre. Mais ça, c'est des questions politiques.
Le témoignage des yeux est plus sûr que celui des oreilles. Mais la danse, elle, s'adresse aussi bien à celle-ci qu'à cela. Et elle agit sur nous comme un sortilège apaisant. Un homme en proie à la passion vient-il au théâtre ? Il est rendu à la sagesse en voyant à quelle funeste fin mène l'amour. Celui que ronge le chagrin sort du théâtre tout réjoui, comme s'il avait bu la potion qui verse l'oubli et qui, comme dit le poète, dissipe la douleur et l'amertume. Quoiqu'elle appartienne au genre satirique, la danse bachique est très prisée en Ionie et dans le Pont. Elle subjugue à tel point les habitants de ces régions que lors des représentations, chacun oublie tout le reste et passe la journée à regarder des titans, des corybantes, des satyres et des bergers. Et ce sont les membres des plus grandes familles, les détenteurs des plus hauts postes qui prennent part à ces danses, loin d'en rougir. Ils en tirent plus d'orgueil que de leur naissance, de leur charge ou de leurs ancêtres.
Deuxième siècle, éloge de la danse de Lucien de Samosate. Là, je le rappelle, dans la bouche d'Éric Desfosses, David Mestri.
Voilà, et en écho à cette improvisation assez étonnante, un peu swing et jazzy qu'on entendait juste avant, c'était les musiciens de l'ensemble de la compagnie Outre Mesure que dirige Robin Joly, qui animait ce stage à Gruyère, avec notamment Miguel Henry qu'on a entendu juste avant, qui se permettait d'utiliser les instruments anciens et les rythmiques des danses de la Renaissance à leur manière.
Un autre invité de marque à Gruyère, c'est Denis Rézindadre, à qui l'on doit l'ensemble vocal Douce Mémoire.
Voilà, ils étaient les invités du concert final. Et Denis Rézindadre est un grand spécialiste de la musique de la Renaissance avec cet ensemble. Mmh. Ils ont donné un spectacle consacré à Rabelais, intitulé La Dive Bouteille. Et avant de retourner à l'atelier de Lutry animé par Philippe Mottet, je lui ai demandé s'ils associaient souvent la danse à leur spectacle.
Oui, oui, bien sûr, très souvent. On a, bon, déjà, la compagnie Autre Mesure, Robin Joly est passé dans ma classe, donc c'est mon ancien élève, donc vous voyez comment on se connaît bien. Et puis nous avons monté plusieurs spectacles avec des danseurs, en particulier des danseurs italiens d'ailleurs qui nous ont, de Florence, hein, le Ballarino di Firenze, qui nous a appris tout ce qu'était justement les pas, les rythmiques de la danse du 15e siècle et du 16e siècle aussi d'ailleurs. Évidemment, pour nous, c'est vital parce que imaginons que des gens retrouvent de la musique de tango dans 500 ans en n'ayant à leur disposition aucune vidéo de tango et aucune partition, enfin seulement des partitions et aucun enregistrement, ils seraient bien incapables de jouer du tango parce qu'évidemment, c'est impensable de jouer une musique de danse sans avoir vu la danse. On ne comprend rien, hein. On peut être complètement à côté, hein, vraiment. Donc nous, chaque fois qu'on joue de la musique de danse, on sait pertinemment comment elle était dansée, ce qui ne nous empêche pas qu'il faut de prendre des libertés, mais en connaissance de cause, surtout au niveau des tempos d'ailleurs. Mais on sait pertinemment comment se passe une pavane, comment se passe un branle-guin, un branle-double. Et en plus, Pascal Bocquet qui joue chez nous a participé pendant 10 ans à une compagnie de danse, donc alors elle est très frottée de danse aussi.
Et pour un flûtiste comme vous, Denis Rézindadre, si on ne sait pas danser, on ne sait pas jouer de la flûte?
Oh, il est très bon flûtiste, il n'a pas dansé, mais disons que je trouve que comme pédagogie, comme formation de l'enfant, par exemple, la danse, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, parce que comment mieux apprendre à un enfant ce que c'est que la pulsation, ce que c'est que le sentiment physique d'une musique, si ce n'est en passant par la danse. Et comme la danse Renaissance est une musique qui, à la différence de la danse baroque, est une danse qui était d'abord destinée à des amateurs, qui n'est pas très difficile pour certaines danses, qui est une danse aussi très sociable, c'est une danse de groupe, hein. Je trouve que c'est absolument merveilleux dans la formation des enfants.
Voilà, voilà, cher ami, je t'ai donné ce petit aperçu sur l'exercice et les mœurs de la danse pour que tu ne m'en veuilles pas d'être un spectateur si passionné. D'ailleurs, s'il te prend l'envie de m'accompagner, je sais que tu seras tellement captivé que tu deviendras fou de la danse. Et je n'aurai pas besoin de te dire le mot de Circé, je m'étonne que ce philtre soit sans effet sur toi. Tu seras ensorcelé. Sans avoir pour autant une tête d'âne, ni un cœur de porc, ton esprit sera plus ferme et ton plaisir si grand que tu ne voudras donner à personne la moindre goutte de ce breuvage. Car ce que dit Homère de la baguette d'or d'Hermès, que grâce à elle, il charme les yeux des hommes et éveille ceux qui dorment, la danse le réalise pleinement. Elle charme les yeux et les ouvre. Elle rend l'esprit attentif à tout ce qui se passe sur la scène.
Cher Lucinos, tes propos m'ont convaincu. Tu m'as ouvert les yeux et les oreilles. La prochaine fois que tu iras au théâtre, n'oublie pas de me réserver une place à côté de toi. Que tu ne sois pas le seul à en revenir plus sage.
Voilà, depuis là, je te laisse faire. Tu vas pas avec l'outil dans les classes, mais sinon, tu peux descendre cette facette jusque là.
À chaque 3 jours, c'est vraiment très évolué d'une fois à l'autre.
Ah oui, là, c'est toute la caisse qui est terminée.
Voilà, oui.
On a collé le fond de la guitare en merisier tout à l'heure. Et dans 7 minutes, on peut enlever les serre-joints sur l'autre, là, qui tiennent le tasseau, pour préparer la couronne d'éclisse, pour qu'on puisse aussi, avant de finir ce soir, coller le deuxième fond.
Très bien. Ce sera fini ce soir déjà. Alors,
Non, en fait, ça a l'air fini, mais...
Là, il y a encore le pose du chevalet.
La boîte, il manque le dessus, il manque la table encore.
Et la table, c'est le dernier élément qui est collé.
Oui, sur cette guitare, ce sera le dernier. Mais pas sur la guitare blanche où on va encore ajouter une touche.
Donc une guitare blanche, c'est parce que c'est une autre sorte de bois. C'est celle en érable.
Alors, l'érable est blanc,
et celle-ci est plutôt rose, celle qui est en merisier.
Un peu brun rosé avec des ondes. Et sous le vernis, sera un très beau brun orange.
Coralie Chalère, avant de travailler à cet atelier, vous connaissiez le travail du bois?
J'avais fait quelques figurines en bois à l'école, mais j'ai toujours aimé travailler le bois, en fait. Mais c'est une première de travailler aussi fin.
Et la guitare, c'est un instrument que vous connaissez?
Non, pas tellement. Moi, je suis violoniste à la base.
Est-ce qui vous a motivé alors à vous inscrire à ce stage de lutherie?
C'est mes parents qui ont eu la formidable idée de m'offrir ça en cadeau d'anniversaire, comme ils savaient que c'était un de mes rêves. Alors voilà.
Et vous avez un pansement à un doigt, c'est aussi un souvenir de l'atelier. Aïe.
C'est pas grand-chose, mais juste ça saigne. Puis si ça va sur le bois, c'est fini quoi.
Donc c'est un métier dangereux, celui de luthier.
Bon, ça va.
Et là, c'est une partie donc, qui consiste à limer le manche pour lui donner sa forme arrondie.
Oui, en fait, c'est un rectangle et on enlève les bords pour que le manche finisse par être arrondi. Donc, on fait ça par facette qu'on déplace chaque fois puis qui a fini par faire un manche ovale.
Et le vernis, c'est aussi vous qui allez le mettre après sur l'instrument, Coralie?
Je sais pas, j'espère, mais faudra voir, on a jusqu'à dimanche, donc on va faire le plus pressant, puis si jamais je la laisserai à Philippe qui me la vernisse, mais j'espère pouvoir le faire. Ouais.
Et puis j'ai vu qu'il y a votre nom sur l'étiquette à l'intérieur, ça veut dire que c'est vous qui allez avoir les guitares après?
Ouais, c'est ma guitare, ouais, exactement.
Et il faudra prendre des cours, ou vous en jouez déjà un peu?
Non, pour le moment je pense que je vais reprendre mon violon, ça m'a fait envie de nouveau, je vais pas pouvoir m'empêcher de la gratouiller quelques temps.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux instruments des maîtres à danser de la Renaissance, justement. Et apparemment, c'est les mêmes instrumentistes qui grattaient la guitare pour faire danser les gens et qui jouaient de leur violon ou de leur pochette aussi pour la danse.
Ouais.
La table, elle est prête?
Elle a déjà sa
rose?
Ouais.
Ah, voilà. Donc deux roses assez différentes pour ces deux guitares qui ont été faites par la même artiste.
Alors ça, c'est une artiste italienne qui a fait cette rose.
Et aussi celle de l'autre guitare?
Oui.
Celle-ci donc est bicolore, c'est ça? C'est aussi tout en parchemin, c'est de très jolis cercles.
Du bois dessus, puis je me suis dit que celle-là était mieux que l'autre, vu qu'elle a du bois qui rappelle à peu près la couleur dessus du manche. Donc j'ai pensé que ce serait pas mal.
Et le chevalet est terminé aussi apparemment?
Oui, je l'ai fini hier, oui.
C'est très différent d'un chevalet de violon, ça, je pense que ça frappe. Hein.
C'est pas du tout la même chose, j'ai d'ailleurs failli le coller dans le faux sens, tellement ça m'a perturbé.
C'est donc une petite barre plate qui sert simplement à attacher les cordes, alors qu'évidemment, sur le violon, les cordes sont tendues par le chevalet haut.
Ça, c'est une question qui m'est posée à chaque fois que je montre un luth. Pourquoi la tête, elle est en angle droit par rapport aux manches? Et je suis très malheureux parce que je n'ai pas la réponse. Moi, en fait.
Parce que le type qui joue, il a le bras dans le plâtre. C'est pas une question de la de tension des cordes.
Ça, mécaniquement, ça ne change rien à la traction des cordes sur le chevalet. J'ai entendu une fois une raison peut-être plausible, c'est que c'est un instrument d'origine arabe et qu'on transportait en l'accrochant à la selle des chameaux avec la tête à angle droit, comme ça. Est-ce que c'est vraiment une raison valable, plausible?
Ça peut être aussi une raison ésotérique. On sait qu'il y a beaucoup de dans l'art du luth qui évoque la cosmogonie.
Alors sur les proportions, oui, de la caisse, la largeur et la longueur de la caisse qui sont proportionnées à la longueur des cordes. Mais sinon, alors la signification symbolique de l'angle droit,
surtout qu'il n'est pas tout à fait droit, hein, il est un petit peu.
Là, il est à 92 degrés.
On peut garder ce trait-là qui est marqué. Oui. Hein.
Il y a encore des soucis pour la forme exacte de la guitare. Il faut contraindre un peu les éclisses à prendre. Exactement. La courbure.
La courbure ici est un peu plus marquée que là. Donc ce montage en l'air sans les formes extérieures, c'est toujours un petit peu plus imprévisible. Mais voilà, comme ça. Donc en fait, il faudrait que je tire ça. Mais pas vraiment beaucoup, hein, c'est un tout petit peu, parce que quand même la forme qui est dessinée là, elle est juste. Donc c'est ici, en fait, que je dois pousser un petit peu et je vais simplement serre-jointer ça pendant qu'on colle. D'accord. Le fond. Et voilà, c'est tout ça. Donc celui-là de serre-joint ne bouge plus. À partir de là, il faut raboter le pourtour des cuisses. Là, tu es descendu au ciseau, je crois qu'on est très proche de la vérité. Là, il suffit d'égaliser les deux surfaces. Où il y a un peu plus de travail à faire, c'est sur le tasseau, ici, parce que le bois est debout. Et alors on le mouille en général pour travailler le bois debout. Comme c'est là, de ce côté qui dépasse, il faudrait prendre l'attaquer en plus, ce côté un petit peu. Alors on va mettre ça dans l'autre sens. Voilà. Peut-être s'y rejointer une fois ici. Quel outil tu préfères travailler ça? Le ciseau?
Le ciseau, je pourrais.
Il faut éviter de prendre toute la largeur parce qu'on n'y arrivera pas. Il faut prendre, disons, l'extrémité ici, attention aux doigts. Donc les 2-3 mm là. Puis je descends, ou bien tu commences ici. On pourra finir avec une râpe.
Cette guitare va être mince.
Que sur la guitare à cordes simples. Quand on fait ce petit genre de mouvement tout bête, en fait les cordes, on en touche deux fois plus. Donc ça s'utilise beaucoup pour ça, pour marquer les rythmes. Les gens qui jouent vraiment bien, c'est impressionnant. Et puis en même temps, on peut quand même jouer des mélodies. différente de la guitare moderne, je trouve. Les cordes sont très peu tendues. Et puis c'est une table qui est très fine, donc ça sonne quand même assez bien, mais tout en légèreté, on ne faut pas la forcer.
Il y a une corde simple, là c'est...
La chanterelle, c'est la première corde.
Elle est souvent simple.
Sur tous ces instruments à cordes doubles, sur tous les luths, la première corde, la chanterelle, qui fait donc le chant, la mélodie, elle est simple. Oui.
Et pourtant il y a une cheville qui n'apporte pas de corde, il y a une cheville qui pourrait permettre de la doubler.
C'est un débat assez intéressant, c'est-à-dire que les luthistes, c'est tous des tricheurs, ils jouent tous avec cette première corde simple, alors c'est à peu près tous les instruments historiques que j'ai vus dans les musées, ils ont un double trou sur le chevalet et la cheville de réserve pour avoir la première corde double. Et à vrai dire, comme moi je ne joue pas le luth, je ne sais pas vraiment pourquoi ils jouent toujours cette première corde simple, mais je n'ai jamais vu de luthiste aujourd'hui. En 2006-2007, jouer avec la première corde double également. Manifestement, pourtant, en 1540, c'est comme ça qu'il jouait. Le prochain luthiste que vous croisez, il ne faudra pas oublier de lui poser la question. Voilà.
Et sur les représentations d'époque, on voit, on arrive à compter les cordes, pas toujours, mais c'est des cordes doubles plutôt.
Non, on arrive sur certains tableaux à voir les frettes qui sont doubles. Sur les viols de gambe, par exemple, on voit bien, ça dépend de la qualité du peintre. Si les frettes sont simples ou doubles, elles sont presque toujours doubles. Ça, c'est un peu difficile de savoir pourquoi. C'est peut-être pour avoir plus de résistance à l'usure. En donnant deux tours, la frette, elle va tenir plus longtemps. Et pour les cordes doubles à la chanterelle, ça, je n'ai pas d'exemple en tête, de preuve. Par contre, sur les instruments, les vrais, qui sont dans les musées, par le nombre de chevilles et la perce au chevalet, on voit que la première corde était double. Alors moi, je le fais un petit peu par jeu sur mes instruments. Le luth qui est là à côté, je mets deux trous pour la première corde et puis je mets une cheville supplémentaire. Peut-être qu'un jour, dans 50 ans, quand on aura encore plus découvert de documents sur la musique de la Renaissance, il y aura des luthistes qui joueront avec l'instrument à corde double.
Ces cordes de Philippe Mottet, ce sont des cordes en quelle matière ?
Sur les instruments, en fait, jusqu'en 1920, tous les instruments portaient des cordes en boyau. Et alors encore plus, évidemment, à la période baroque ou à la période de la Renaissance, toutes les cordes sont faites en boyau, y compris les grosses cordes qui sont des tresses de boyau. Et sur la guitare que vous voyez là, j'ai mis des équivalents synthétiques parce que c'est un instrument que je montre volontiers à des luthistes ou à des guitaristes. Et puis, j'aimerais pas qu'elles soient abîmées trop vite.
Les cordes en boyau sont très fragiles et très chères, c'est ça ?
Exactement. Donc si je mets un jeu de cordes en boyau sur cette guitare baroque, après l'avoir montré à une exposition de 3 jours, je peux changer les cordes. Alors c'est un peu désespérant.
Voilà. Et les guitares que vous construisez ici, les deux guitares Renaissance, elles vont être équipées de cordes à l'ancienne ?
Alors j'ai les deux options. Il faudra que je discute avec ceux qui les construisent s'ils ont envie de cordes en boyau, très fragiles, mais qui vont donner à l'instrument sa sonorité authentique, ou des équivalents plastiques qui sonnent un petit peu plus plastiques, mais qui sont alors inusables.
Et qui sont vraiment étudiés pour imiter le son de la corde ancienne ? Est-ce qu'il y a un grand développement dans la qualité des nylons ou des plastiques sur les cordes de guitare ?
Je ne sais pas si on peut parler de grand développement. On utilise sur les luths, depuis l'invention du nylon, on utilise des cordes en nylon plus fines que les cordes de guitare. On utilise des cordes en PVF, polyvinyle de fluor, des cordes avec du carbone. Et puis ça, c'est une nouvelle variété de cordes synthétiques. C'est une maison italienne à Venise qui fabrique une espèce de corde blanche qui a un revêtement un petit peu, vous entendez le bruit, un petit peu rugueux, qui imite tout à fait l'adhérence sur la peau du boyau et la sonorité donc plus proche du boyau.
des sonorités de guitare qui pourraient s'élever d'un des lieux de Gruyère pendant cet atelier Renaissance, David Mestri.
Et d'une des deux guitares fabriquées toute cette semaine d'atelier de musique ancienne par Philippe Moterio, par ses stagiaires Coralie Schaller et Guy Luisoni. Et c'était ici Marcello Vitale, le joueur superbe de cette tarentelle sur une chitarra battente.
Vous savez ce qu'on va faire, David Mestri, jusqu'à la fin de cette heure. On va entendre Denis Rézindadre diriger là son ensemble Douce Mémoire. Et puis demain, nous passerons Musique en Mémoire une heure entière avec lui, si vous êtes d'accord, David.
Excellente idée. Et Véronique Bourrin, soprano, interprète ses chansons de Pierre Guédon. C'est tiré d'une anthologie qui s'appelle Grand bal à la cour d'Henri IV.
Oh.
Un grand bal à la cour d'Henri IV comme si vous y étiez, grâce à l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Raisin d'Adre. Et pour une compréhension de cet art renaissant, je vous propose d'écouter Musique en mémoire demain, puisque demain, c'est Denis Raisin d'Adre qui sera votre invité, David Mestri, je le rappelle, toujours à la suite de cet atelier Renaissance, tel qu'on a pu le vivre à Gruyère, c'était à fin août passé. Mais cette émission de Musique en mémoire, chaque jour de l'année, peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson et, toute cette semaine, sur la réalisation de Christian Morero. C'est une proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse, comme je vous comprends. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2, même si nous, c'est bien demain à 9h que nous retournons à Gruyère pour d'autres accents de cet atelier Renaissance. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas, ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.
Cristóbal de Morales fait partie du premier âge d'or de la musique espagnole. De tous les compositeurs de cette génération, il est celui que ses contemporains ont le plus souvent loué et avec le plus d'enthousiasme. On lui a même attribué le titre de « lumière musicale de l'Espagne ». Qui est-il ? On pense qu'il est né vers 1500 à Séville. Il a été ordonné prêtre dans sa ville natale. Comme le voulait la pratique de l'époque, il s'est baladé de poste en poste à travers les cathédrales, collégiales et les cours de son pays avant de devenir membre de la chapelle papale de Rome. À la fin de sa carrière, Cristóbal de Morales a préféré rentrer dans son pays et il est mort à Tolède en 1500.